Éric Bataillon.
Bonjour, c'est une ville qui enjambe deux continents. Istanbul a un pied en Europe et un autre en Asie mineure. Maintes fois conquise, perdue, puis reprise par des armées de tous bords, celle qui s'appelait Constantinople jusqu'en 1926 a inspiré les poètes et les écrivains, de Gérard de Nerval à Ernest Hemingway, de Mark Twain à John Dos Passos. Cette année 2015 marque le centenaire du massacre des populations arméniennes en Turquie. Un génocide, affirme désormais le Vatican, mais que l'État turc ne reconnaît pas encore comme tel. Des centaines de milliers de personnes enlevées, expropriées, déportées, les hommes systématiquement tués, les femmes et les enfants humiliés. Une date symbolique sur laquelle nous revenons avec l'historien Michel Marian.
Orion Hebdo sur RFI.
Constantinople, c'est à Istanbul, au Constantinople que je suis allé un jour pour y découvrir le grand amour que l'on attend toujours. Istanbul, ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul, au Constantinople que je l'ai trouvé un soir qui flânait au milieu de la foule d'Istanbul.
Timur Mugil, bonjour.
Bonjour.
Professeur à l'INALCO, où vous enseignez la littérature turque. Vous connaissez bien évidemment la ville d'Istanbul, puisque vous avez participé à un ouvrage qui s'appelle « Istanbul, rêve de Bosphore », que vous avez coordonné. Et c'est un ouvrage qui parle des relations entre un certain nombre d'écrivains occidentaux, et pas uniquement français, avec cette ville particulière.
Oui, une longue tradition en réalité depuis, on pourrait presque dire depuis la Renaissance. Mais bon, ce choix de texte porte plutôt sur le 19e et le 20e siècle, pensant que c'était plus proche de la ville que justement un voyageur pourrait découvrir, de nombreux aspects étant encore très présents. C'est-à-dire ce que Théophile Gautier ou Herman Melville racontent peut encore être vu, en particulier les paysages et ce fameux skyline de mosquée qui attire sur les bords du Bosphore. Une production vraiment très régulière et presque systématique, je dirais, depuis le 19e siècle. C'est-à-dire que les voyageurs n'ont cessé et bon, nous avons essayé de choisir des textes. Il y a par exemple Hans Christian Andersen, l'auteur des d'Andersen, qui est un des nordiques qui sera passé par Istanbul. Tout le monde est passé par Istanbul, en réalité.
Et Gérard de Nerval et d'autres encore, Pierre Loti. Qu'est-ce qui intéresse ces écrivains, mais aussi le voyageur qui arrive à Istanbul? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il découvre?
Alors, il découvre déjà un paysage extraordinaire, c'est-à-dire un paysage unique au monde. C'est une ville qui est posée sur l'eau, en réalité. En tout cas, la ville classique, puisque quand vous circulez dans Istanbul maintenant, qui s'étend sur à peu près 50 km de part et d'autre du Bosphore, vous voyez autre chose que l'eau. Vous voyez surtout des cités modernes, des immeubles très hauts, des gratte-ciels, etc. Mais effectivement, le premier choc, c'est l'interpénétration de l'eau, de la terre, une certaine présence de la nature aussi, de nombreux parcs qui sont conservés, très beaux arbres, et le choc d'une ville orientale qui est... j'ai toujours tendance à penser que c'est un orientalisme, un Orient acceptable que propose Istanbul. C'est-à-dire que ça n'est pas trop exotique. C'est suffisamment exotique pour des dépaysés, mais pas plus.
Qu'est-ce qui reste de la ville de Constantinople, qui s'appelait comme ça autrefois, jusqu'en 1926?
Alors, les traces, les restes byzantins sont évidemment très, très présents. La muraille, déjà, la ville est encore, la vieille ville est entièrement ceinte d'une muraille byzantine qui a été réhabilitée, nettoyée, remise en état, pourrait-on dire, aussi à l'usage des touristes, je suppose, mais qui permet de faire une idée de ce qu'était une grande ville fortifiée au Moyen-Âge. Et puis Sainte-Sophie qui est devenue musée, qui a été mosquée, mais qui est quand même la grande église grecque de la ville de Byzance.
Istanbul, c'est une ville orientale, c'est une ville musulmane ou c'est une ville cosmopolite?
Alors c'est une ville qui a été très cosmopolite. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, la moitié de la population était chrétienne. C'est-à-dire autour de 1900, il y a 1 million d'habitants, on compte 1 million d'habitants, et il y a à peu près 500 000 Grecs, Arméniens, Juifs et autres Levantins de passage ou des étrangers de passage. Donc la ville est vraiment partagée en deux et elle ne le vit pas trop mal. Sous la République, c'est très différent. On turquifie et donc les minoritaires, comme on les appelle, partent pour différentes raisons. Soit les Arméniens pour des raisons bien connues, ce qu'on appelle le génocide. Les Grecs sont renvoyés chez eux par tranches successives. Mais en fait, un nouveau cosmopolitisme s'est mis en place depuis une trentaine d'années. de manière assez surprenante, il y a eu d'abord les Russes. Les Russes sont, qui ont toujours voulu venir à Constantinople sont venus de manière assez massive. Pas mal de gens de l'Est. Puis actuellement sont les Syriens. Les Syriens sont 400, 500 000. Et puis beaucoup d'Africains qui attendent de passer dans la riche Union européenne. Des Ghanéens, des Nigérians, etc. Donc il y a un nouveau cosmopolitisme assez intéressant qui commence à se refléter d'ailleurs en littérature, puisque longtemps c'était un sujet un petit peu sociologiquement et littérairement tabou, et là on voit apparaître une nouvelle Istanbul en réalité.
La ville s'arc-boute sur l'eau ou est-ce qu'elle a tourné le dos à l'eau et s'intéresse à d'autres espaces?
Oui, là, on peut dire que la ville a définitivement tourné le dos à l'eau. C'est l'aspect touristique. Une partie de la population la plus fortunée peut s'installer sur le Bosphore, mais de toute façon, les prix sont prohibitifs. Et donc, la ville s'est étendue, soit vers la Bulgarie, soit vers l'Anatolie, d'une manière folle, en réalité. C'est un territoire, on dit 14 millions d'habitants, une extension de 120 kilomètres peut-être d'un bout à l'autre. Oui, une ville qui n'a pas grand-chose à voir avec l'image d'Istanbul qui est reflétée dans cet ouvrage.
Y a-t-il des quartiers emblématiques dans cette ville d'Istanbul?
Ah oui, il y a le vieil Istanbul, c'est-à-dire par exemple Sultanahmet, le quartier des mosquées, qui est vraiment qui donne une image de ce qu'était la ville musulmane classique, on va dire même au 19e siècle. L'ancien quartier cosmopolite de Pera, qui s'appelle Beyoğlu et qui est un quartier plutôt d'amusement, mais qui, à cause de son architecture, de son relief, continue d'inspirer le voyageur, je pense, sur ce qu'était une ville levantine, en réalité. Et puis les vieux quartiers musulmans du Skudar, en face, sur la rive asiatique, qui sont très préservés. Donc en fait, il y a aussi des sortes de conservatoires locaux qui permettent aux visiteurs de retrouver une partie de ce que ces textes décrivent.
Si vous étiez un visiteur d'un jour, quel endroit choisiriez-vous à Istanbul?
Alors un jour, je dirais, c'est pas assez. Mais effectivement, une des façons de sentir la ville, c'est de prendre le bateau. C'est le vapour, c'est-à-dire prendre le bateau qui fait la traversée entre la côte européenne et asiatique, parce que c'est là qu'on la voit le mieux, et on sent les odeurs, on entend les mouettes, et on est vraiment dans la ville maritime.
Alors vous avez publié cet ouvrage, Istanbul, le rêve de Bosphore, avec des mots écrits par des écrivains, des poètes d'il y a longtemps, parfois un siècle. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore écrire sur Istanbul de façon nouvelle?
C'est une bonne question. Je crois que ça concerne surtout les écrivains turcs. En réalité, les écrivains étrangers ont un petit peu atteint leurs limites au fil des descriptions et des évocations. D'ailleurs, ils sont beaucoup répétés jusque dans les années 20. Oui, les écrivains turcs ne cessent de réécrire leur ville, ne cessent de la remettre en scène.
Merci Timur Muhyiddin. Je rappelle que vous êtes professeur à l'INALCO, professeur de littérature turque. Et nous parlions donc d'Istanbul. Merci
à vous.
On peut lire ou relire Istanbul, rêve de Bosphore, un recueil de textes classiques réunis et présentés par Timur Muhyiddin et Alain Kelavelligier, avec des traductions inédites, des cartes et 8 pages hors texte de photographies de Pierre Loti. Constantinople lives in Istanbul, the Constantinople, so view the day in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say.
People just liked it better that way.
So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Constantinople, no, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Entre le mois d'avril 1915 et le mois d'avril 1916, des milliers de personnes furent arrêtées, déportées, assassinées, humiliées dans ce qui était alors l'Empire Ottoman. Nous étions en pleine Première Guerre mondiale, la Turquie venait d'entrer dans le conflit aux côtés de l'Autriche-Hongrie à la demande de l'Allemagne. Ces massacres généralisés et massifs, qui ne portaient pas encore le nom de génocide, visaient à régler définitivement la question arménienne, comme l'appelaient les autorités ottomanes de l'époque. Une période sombre de l'histoire de la Turquie que nous évoquons avec l'historien et philosophe Michel Marian, qui a des attaches arméniennes et qui invite le lecteur à le suivre dans la ville d'Erzurum. Il nous dit pourquoi.
Il y a des Arméniens, il y en avait 300 000 survivants après le génocide et après le traité de Lausanne qui organisait leur départ massif. Une bonne partie de ces 300 000 étaient cachés en Anatolie et il y avait ceux d'Istanbul qui, eux, existaient comme communauté qui finalement n'avaient pas été véritablement inquiétés pendant la guerre. Et puis, cette communauté, celle d'Anatolie, à partir des années 50, a été victime de nouveaux types de persécutions, de brimades, de vexations, à la suite des tensions communautaires qui intervenaient à Chypre et qui donc avaient une conséquence sur le comportement de la majorité turque, sunnite, vis-à-vis de ces minorités. Et ils ont commencé à émigrer vers Istanbul, puis vers l'Europe ou les États-Unis. Ce qui fait que maintenant, on s'accorde à dire qu'il y a 60 000 Arméniens à Istanbul, quelques milliers, sans qu'on puisse vraiment préciser ce chiffre, en Anatolie. Mais le phénomène évidemment le plus important, c'est le phénomène de la redécouverte des Arméniens islamisés qui a donné lieu à des livres à succès en Turquie et qui émeut en profondeur une partie de la population turque.
Alors vous écrivez dans votre introduction, dans l'introduction de votre livre, que vous voulez rouvrir les portes d'Erzurum. Que voulez-vous dire par là ?
Alors, c'est une façon d'essayer d'expliquer à un lectorat pourquoi, pour quelqu'un de la troisième génération, dont les personnes chères qui ont été tuées lui sont inconnues en réalité, pourquoi c'est une vérité qui est encore si douloureuse, si présente, en partie par la dureté des conditions dans lesquelles ces gens ont été choisis pour être conduits à la mort, et surtout dans la façon dont leur mémoire, je dis dans le titre, a été outragée. Donc tout ça fait qu'ils sont encore présents, et ça n'est pas un cas personnel, pour beaucoup d'Arméniens il en est de même, mais chacun l'interprète à sa façon en fonction de ses origines. Les miennes sont dans cette ville d'Erzurum, et donc j'ai une sorte de fierté de me revendiquer de cette ville-là, et en même temps je me sens empêché d'y retourner parce que c'est l'une des villes où le nationalisme turc est le plus fort et où si j'y allais, je crois que je ne pourrais pas dire en toute sécurité, voilà, je suis arménien, je viens pour me recueillir, pour retrouver ce qui a été l'origine de ma famille.
Rappelons, Michel Marian, que Erzurum, c'est aussi la ville où a eu lieu un congrès, le congrès Lashnak, la Fédération révolutionnaire arménienne, qui avait adopté en juillet 1914 le principe selon lequel chaque Arménien devait combattre pour la nation à laquelle il appartenait, un principe qui a été rompu peu de temps après lorsqu'il y a eu la constitution d'un groupe de volontaires pour l'armée russe. En 1918, Dashnak estimait d'ailleurs que ce fut une faute. Est-ce que vous partagez cette vision ?
Oui, disons que ce qui s'est passé avec ce congrès d'Ashnak de 1914, c'est qu'il apportait une réponse à une demande pressante qui avait été faite par le gouvernement jeune turc aux Arméniens ottomans, de les aider à passer derrière les lignes russes et soulever les populations, notamment les populations d'Azerbaïdjan et peut-être d'Asie centrale, pour un grand projet qui était un projet de reconquête de l'Asie centrale turque par les jeunes turcs. Les Dashnak ont répondu non, nous observerons la neutralité. Alors tous ne l'ont pas observé, vous avez raison de dire qu'il y a eu, et surtout au fur et à mesure des nouvelles qu'on a apprises, à la fois des provocations, des harcèlements, puis des massacres, et enfin de l'extermination systématique, il y a pas mal de Dashnak qui ont rejoint les troupes russes. Est-ce qu'ils ont eu tort avec le recul? Je pense qu'effectivement, quand les Arméniens étaient divisés, ils étaient divisés depuis 1909, où ils s'étaient rendus compte que les jeunes Turcs n'avaient pas, malgré les déclarations d'envie de fraterniser, de service ensemble, d'une constitution commune qui mette à égalité les musulmans et les non-musulmans, malgré tout, ils avaient des comportements qui étaient des comportements de méfiance, voire d'agression camouflée contre eux. Et donc, il y avait
car la question arménienne était une question déjà ancienne.
Absolument. Et elle avait rebondi après la révolution libérale constitutionnelle de 1908, qui avait vu arriver au pouvoir les jeunes Turcs, mais alliés au Dashnak. Et puis en 1909, il y a eu des massacres terribles d'Arméniens à Adana, où on a soupçonné les jeunes Turcs soit d'inaction, soit pire, de complicité. Donc débat, pour répondre à votre question, débat parmi les Arméniens, entre les Dashnak d'un côté, et puis d'autres qui étaient les Hunchak, plus à gauche, et les libéraux, plus à droite.
Alors vous écrivez également, Michel Marian, que les Arméniens ont finalement payé pour les autres peuples européens ou arabes qui se sont affranchis de l'Empire ottoman. Pire, leur religion les desservait, leur position géographique aussi.
Oui, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que les jeunes Turcs avaient en tête ce qui s'était passé et ce qui s'était passé encore récemment. Par exemple, l'exemple bulgare où, malgré 6 siècles de domination, le sentiment national bulgare était resté très fort. Et en finalement 2 guerres avec le soutien des Russes, les Bulgares sont devenus indépendants. Donc, ils ont imaginé que la même chose se passerait peut-être pour les Arméniens. Néanmoins, entre penser ça... Beaucoup de peuples pensent ça et beaucoup de peuples peuvent avoir intérêt à diminuer le risque de sédition de la part de certaines minorités. Et passer à un génocide, c'est-à-dire un plan qui, au bout de 1 an, arrive à exterminer systématiquement une population, il faut plus. Alors, il faut plus, d'une part, cette population était déjà affaiblie par les massacres que nous venons de rappeler, qui étaient intervenus de façon sporadique depuis une trentaine d'années. Et puis, je crois que il y a une énergie qu'on mise les jeunes Turcs là-dedans, qui vient du fait que justement, à un moment, ils sont arrivés au pouvoir comme alliés des Arméniens, et donc sont passés aux yeux de masses traditionnelles arriérées. Ils sont passés pour un peu les supplétifs d'un progrès qui était manipulé par les chrétiens. Il a fallu qu'ils lavent ce soupçon-là un peu dans le sang des Arméniens publiquement en se détournant d'eux, en les livrant à la foule. Je crois qu'il y a eu ce besoin absolument de reconquérir le cœur des masses anatoliennes musulmanes en leur livrant les Arméniens qui jusque-là avaient été une sorte de sceau d'infamie du fait de leur alliance avec les jeunes Turcs.
Alors vous soulignez que la Turquie moderne a particulièrement soutenu la reconnaissance de la Shoah, le génocide des Juifs, en soulignant son caractère unique. Est-ce pour vous une façon de nier, pour la Turquie évidemment, celui des Arméniens ?
N'exagérons pas, on n'avait pas besoin de la Turquie pour reconnaître la Shoah. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 90, à un moment où dans certains milieux juifs, on se posait la question de la mise en doute, il y avait du négationnisme, etc., la question de l'unicité de la Shoah s'est posée, et à ce moment-là, effectivement, les gouvernements turcs de l'époque ont pensé qu'ils pouvait être utile de soutenir cette idée de l'unicité de la Shoah pour justement établir une coupure forte avec le génocide arménien. Ils ont mené des campagnes, en particulier aux États-Unis, qui pendant un temps court ont eu du succès, et puis à un moment quand les vrais historiens de la Shoah sont entrés dans le jeu, c'est-à-dire Hilberg, c'est-à-dire Browning, c'est-à-dire Boer, alors là, ont demandé au Congrès de reconnaître le génocide arménien, cette possibilité-là s'est avérée une impasse pour les gouvernements turcs. Donc c'est quelque chose qui a eu lieu, mais qui maintenant est derrière nous. C'est-à-dire que qui est derrière nous aussi pour des raisons de contexte historique. C'est-à-dire qu'entre temps il y a eu le Rwanda. Enfin, on a vu que d'autres génocides étaient possibles au sens strict de la définition du génocide telle qu'elle avait été élaborée dans les années 40 par Lemkin, ce juriste polonais qui avait précisément réfléchi sur le génocide arménien. Donc dès le début, il y avait une sorte de lien conceptuel, si vous voulez, entre le génocide arménien et la Shoah.
Le génocide arménien, de la mémoire outragée à la mémoire partagée, de Michel Marian, publié chez Albin Michel. À la réalisation, François Porcheron. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. La semaine prochaine, notre dernière étape citadine nous conduira à Beyrouth et nous évoquerons également la situation en Irak et en Syrie. En attendant, passez une bonne semaine sur RFI.